Espace consommateur. Espace consommateur, la tribune consacrée à la protection des intérêts des consommateurs. Espace consommateur, c'est informer et sensibiliser les consommateurs sur les droits et devoirs, sur l'actualité des marchés, mais surtout sur les actions du gouvernement au profit des consommateurs. Espace consommateur, c'est mon espace, c'est ton espace et c'est notre affaire à tous. Réalisation, présentation, Jean-Claude Mabéa.
Ce numéro de Espace consommateur est consacré aujourd'hui à la peste porcine africaine découverte à Sangon et à Boisflay. D'ailleurs, un dossier réalisé par César Yao à Sangon vous sera proposé. Et aussi, l'interporcie rassure les Ivoiriens quant à la consommation de la viande de porc qui sera sans risque pour les humains. Filière riz, la Côte d'Ivoire est engagée sur la voie de l'autosuffisance, a annoncé récemment le directeur général de l'ADERI. Il y a un geste que nous devions tous faire avant de boire notre café du matin. Des précisions dans la dernière partie de ce magazine. Bienvenue à tous.
Espace consommateur, c'est mon espace, c'est ton espace et c'est notre affaire à tous.
Droits et devoirs du consommateur.
C'est par ce reportage consacré aux conséquences de la peste porcine à Sangon que nous ouvrons ce numéro de Espace consommateur. Dans cette localité, les éleveurs de porc se disent malheureux avec l'abattage des animaux qui leur causent d'énormes pertes financières. Ils s'en sont confiés à César Yao qui est allé à leur rencontre.
Les nouvelles ne sont pas bonnes pour les éleveurs de porc de Sangon où on dénombre des centaines de fermes disséminées depuis le kilomètre 17 jusqu'au village de Sangon-Agban. Toutes leurs bêtes ont été abattues.
Moi, j'étais à 176 porcs. J'ai presque perdu près de 43 porcs. Le reste, moi, je les ai tués pour pouvoir faire cadeau.
L'abattage systématique des bêtes fait des malheureux car certains éleveurs perdent des millions en un jour.
Moi, c'est 81.
Tu évalues ça à combien?
Un porc d'au moins 3 mois, 4 mois, on peut vendre à 130 000. Mais ceux qui étaient là dépassent plus que ça. Donc, on peut vendre au moins un porc au minimum à 170 000. Ça fait des millions qu'ils nous ont fait perdre. Ils ont mis tout à l'eau.
Après l'abattage des animaux, les fermiers s'interrogent.
Dans nos serges, nous ont toujours dit on va vous dédommager, mais ce n'est jamais arrivé. Si l'État avait pitié de nous, c'est les choses qui devraient être faites. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on tue, on pesait et puis on dit voilà ton chèque. Qu'est-ce que nous ont fait? Rien. Ils sont venus tuer, ils sont partis.
Comment faire pour sauver la filière s'il n'y a pas de vaccin pour prévenir le virus et traiter les animaux malades? Il n'y a alors qu'une seule alternative, nous confie Dr Kalo Vesali, directeur des services vétérinaires de Côte d'Ivoire.
Quand on est face à la peste porcine et que vous avez pour objectif d'éliminer la maladie, c'est l'abattage systématique dans le foyer, autour de 3 km autour du point de déclaration de la maladie. Et on surveille dans un rayon de 7 km parce que vous n'avez pas de vaccin pour prévenir, vous n'avez pas de médicaments pour traiter. Et si vous voulez sauver la filière, vous êtes obligé d'éliminer la maladie à l'origine.
Le ministère des Ressources animales et halieutiques rassure que tout abattage sanitaire du porc fera l'objet d'une indemnisation, quelle que soit la durée de sa mise en œuvre. Docteur Kalo Vesali.
La définition, par exemple, du coût de l'indemnisation se fait à la suite de discussions avec les parties prenantes, notamment l'interprofession porcine sur le montant de l'indemnisation. Et lorsque tout est validé et que l'argent est affecté, les éleveurs sont contactés pour avoir leur numéro de compte bancaire. Et ce numéro-là est acheminé auprès du trésor qui s'efforce fort de virer des ressources aux différents éleveurs.
Même si la peste porcine n'est pas transmissible de l'animal à l'homme, la viande et les produits porcins issus d'animaux abattus sont totalement détruits du fait de la résistance du virus dans le but d'interrompre la chaîne de transmission du virus aux autres animaux de la même race.
À ce propos, la filière porcine ivoirienne a été présentée récemment par le secrétaire général de l'Interporci en conférence de presse à son siège à Abidjan-Cocody, Dominique Quadio.
La production porcine est passée de 8447 tonnes en 2011 à 12680 tonnes en 2022, soit une croissance de plus de 50% sur cette période. L'objectif de production fixé pour 2026, conformément à la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, PONADEPA 2022-2026 est de 25 000 tonnes. Aussi, Tout est mis en œuvre par l'Interporci pour se rapprocher de cet objectif. La filière porcine, c'est aujourd'hui plus de 1500 éleveurs, 500 vendeuses et vendeurs de produits porcins, 11 charcutiers, un abattoir moderne de porc, 50 000 truies pour un potentiel de production annuel de 20 000 tonnes de viande porcine, 30 000 emplois, dont 10 000 emplois directs et 20 000 emplois indirects, plus de 70 milliards de chiffre d'affaires par an.
Cette filière est marquée en cette année 2024 par la résurgence de la peste porcine africaine qui engendre d'énormes pertes pour les acteurs. Le dernier épisode en date concerne les localités de Boisflé et de Songon, dont les résultats des analyses ont confirmé depuis le 10 mai 2024 la présence du virus dans les fermes. Ainsi, dans le cadre de la riposte, plusieurs actions sont menées par l'Interprofession Porcine de Côte d'Ivoire, Interporci, en collaboration avec le ministère des ressources animales et halieutiques à travers sa direction des services vétérinaires. Aussi, afin de rassurer l'ensemble de la population ivoirienne sur la consommation des produits porcins en cette période et les dispositions prises à cet effet, nous vous proposons d'écouter Dominique Kouadio, le secrétaire général de l'Interporci.
Comme l'a indiqué le communiqué du MIRA, les mortalités suspectes de porcs signalées dans les élevages de Boisflé et de la sous-préfecture de Songon les 1er et 8 mai 2024. Ainsi, les analyses des prélèvements effectués par les services vétérinaires ont confirmé le 10 mai 2024 la présence de la PPA dans ces zones. C'est donc le deuxième épisode de PPA à laquelle la filière est confrontée en 2024, après celle de Bategedia 2 dans le département de Daloa en début d'avril 2024. Il faut souligner que dès la suspicion avec les mortalités, en collaboration avec les services du MIRA, un périmètre de 3 km autour des foyers a été défini afin de circonscrire la maladie et d'éviter sa progression. À ce jour, après l'abattage de plus de 9000 porcs dans les zones impactées, la situation est sous contrôle et les services du MIRA continuent les ratissages et la désinfection des zones infectées. Depuis l'apparition de la PPA, l'Interporci et les services du MIRA font tout le nécessaire pour mettre à la disposition des populations de la viande saine, indemne de toute contamination. Les populations ivoiriennes friandes des produits porcins peuvent donc continuer à consommer de la viande de porc sans aucun risque. Les produits mis sur les marchés sont issus des élevages des zones indemnes. De plus, plusieurs contrôles vétérinaires sont faits avant abattage, inspection ante-mortem et après l'abattage, inspection post-mortem au sein de l'abattoir moderne de la CIVAC.
Espace consommateur, c'est mon espace, c'est ton espace et c'est notre affaire à tous.
Info consommateur.
Filière riz. Alors que des rumeurs circulaient sur la présence de riz en caoutchouc en Côte d'Ivoire, le directeur général de l'ADERI, l'agence de développement de la filière riz, a tenu à rassurer la population. Selon Yacouba Dambélé, il ne s'agit en réalité que de la longue durée de conservation du riz importé, lui donnant cet aspect particulier. Cette mise au point a été faite lors de la réunion hebdomadaire du CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale, dénommé Tout Savoir Sûr, qui a été consacré le mardi dernier à la politique de développement de la filière riz en Côte d'Ivoire. On en sait un peu plus avec Christelle Yesso.
Sur la rumeur du riz caoutchouc en Côte d'Ivoire, Yacouba Dambélé répond.
Le riz contient beaucoup d'amidon. Quand le riz est conservé pendant un certain temps, pratiquement tout se transforme en amidon. Et avec l'évolution à un moment donné, vous mettez un peu d'eau dedans, l'amidon se resserre. Et ça peut devenir un ballon. Mais c'est de l'amidon. Le riz qui est importé, la plupart du temps, c'est du riz qui est conservé au lieu de production au moins 5 ans. Souvent plus de 10 ans même, quand ça nous arrive. Donc quand ça vient chez nous, pratiquement les éléments nutritifs là, il n'y en a plus assez dedans.
Le directeur de l'ADERI estime que le riz cultivé en Côte d'Ivoire, appelé riz local, est de bien meilleure qualité.
Ce que je peux vous assurer, c'est qu'on a du riz de très bonne qualité. Nous avons des variétés vraiment à tous les niveaux. Et l'avantage de notre riz, c'est que c'est du riz de la saison. Il garde encore toutes ses qualités. Il y a le goût dedans, il y a les vitamines dedans, il y a tout dedans.
Se pose alors la question de savoir pourquoi l'importation.
On n'est pas encore arrivé à produire suffisamment pour les Ivoiriens. Vous avez un gap de près de 900 000 tonnes. Donc, avec un gap ainsi, on parle de gap. Venez prendre le riz, venez acheter le riz. Ils vont dire, mais ça y est où? Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on ouvre un peu. Aujourd'hui, nous produisons pour 2023, nous allons produire 1 300 000 tonnes. Pour un besoin qui se chiffre environ à 2 100 000. Donc, vous voyez, il y a un gap d'à peu près 800 000 tonnes que on doit pouvoir importer.
Pour atteindre l'autosuffisance en riz, l'État continue de former les populations de ce secteur tout en leur offrant le matériel adéquat, conclut-il.
Ressources halieutiques. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a organisé à Abidjan récemment un atelier pour marquer la clôture du projet Initiative Pêche Côtière composante Afrique de l'Ouest. Ce projet IPCAO en abrégé visait à renforcer la gouvernance, la gestion et les chaînes de valeur des pêches grâce à la mise en œuvre d'une approche écosystémique des pêches, d'instruments internationaux pertinents et de partenariats innovants en matière de gouvernance. Après 6 ans et demi de mise en œuvre au Cap-Vert, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, il a donc été question de faire le point des activités et présenter les résultats obtenus. Le représentant résident de la FAO en Côte d'Ivoire s'est d'ailleurs félicité du bon déroulement du dit projet, non sans présenter les résultats enregistrés durant cette période. Ataé Maïga.
Ce projet, aligné à la stratégie de transformation des systèmes alimentaires aquatiques visant à améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie pour tous, est d'un intérêt capital pour la FAO. Les résultats du projet contribuent aux objectifs des pêches et des chaînes de valeur de la feuille de route pour la transformation bleue. Les résultats du projet contribuent à l'atteinte des engagements du Cap-Verde, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal en rapport avec les objectifs de développement durable, en particulier l'objectif de développement durable 1, mettre fin à la pauvreté, et l'ODD 14, océan, mer et ressources marines. Je demeure convaincu que la politique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture que nous connaissons sous l'acronyme PONADEPA sur l'horizon 2022-2026, impulsée par le ministre, aboutira d'ici 2030 à l'autosuffisance du pays en ressources halieutiques et animales en impactant significativement l'ensemble des acteurs.
Le ministre des Ressources animales et halieutiques a à son tour salué les efforts des parties prenantes avant de les exhorter à s'approprier les acquis de ce projet pour sa pérennisation. Sidi Timoko Touré.
L'objectif global du projet, qui est de renforcer la gouvernance, la gestion et les chaînes de valeur de la pêche par la mise en œuvre d'une approche écosystémique des pêches, d'outils internationaux de gestion pertinents et de partenariats innovants dans les 3 pays concernés, est en bonne voie au vu des résultats atteints. Au niveau de chaque pays, des sites pilotes ont été choisis en raison de leur importance socio-économique pour les communautés locales de pêche, notamment en matière de transformation artisanale des produits de la pêche, mais aussi pour l'écosystème en tant que zone de mangrove et de frayères. C'est ainsi qu'il y a été développé à titre pilote une approche holistique et intégrée dans la gestion durable des sardinelles à Sassandra spécifiquement, pour ensuite procéder à une mise à échelle au niveau des autres plans d'eau, des différentes bonnes pratiques qui lui auront été retenues. J'exhorte toutes les parties prenantes, publiques que privées, impliquées dans la mise en œuvre du projet, à s'approprier les résultats atteints par une synergie d'action, à apporter tout leur soutien nécessaire afin d'assurer une durabilité des résultats ainsi glanés. Pour ma part, je puis vous assurer de l'entière disponibilité de mon département à tout mettre en œuvre pour la continuité des actions du projet dans l'intérêt des communautés de pêche côtière concernées.
Dans la même veine, des fours améliorés ont été remis officiellement aux femmes marailleuses et transformatrices de poissons du débarcadère de Sassandra. Ce don qui est une action de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, vise à offrir des conditions décentes de travail et de vie aux acteurs de la pêche, nous dit Kofi Benson, notre correspondant dans le Bas-Sassandra.
Montant d'un peu plus de 38 millions de francs CFA, cette plateforme de fours améliorés est présentée par le docteur Kanga Kwame de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
Cette plateforme pilote des fours est composée d'un bâtiment de 3 fours FTT de transformation des produits halieutiques, disposant d'une capacité de traitement d'une tonne et demie de poissons frais par jour. Cette infrastructure de transformation et de valorisation des produits halieutiques vise à offrir des conditions décentes de travail et des vies aux acteurs de la pêche artisanale de Sassandra.
Pour Assoumani Gourouménan, directeur de cabinet du ministre des Ressources animales et halieutiques, ces fours ont le mérite de préserver des vies.
Si nous voulons avoir des produits sains, de qualité, il nous faut de tels ouvrages. L'un des éléments forts de ce four, c'est qu'il protège l'environnement. On utilise moins de bois pour fumer le poisson.
Tifo Hilaire Germaine est la présidente de l'association des transformatrices Animi à Sassandra. Ces fours donnent une bouffée d'oxygène.
À l'époque, pour fumer le poisson, on avait des problèmes. On prenait n'importe quoi, on ne connaissait pas la gravité. Grâce à l'arrivée du projet FAO, ils ont fait savoir que le bois de EVA, ça nous rend malade. Maintenant, la magrobe, lui, c'est un bois, il ne faut pas qu'on utilise pour fumer le poisson, sinon ça va finir. Grâce à ce bois, on a du poisson. On a demandé, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et FAO nous envoyait le four amélioré. Avec trois bois, on peut fumer une tonne de poissons.
Plus besoin donc de fournir beaucoup d'efforts pour ces femmes transformatrices de poissons. Kofi Benson, de retour de Sassandra, Radio de la Paix.
Espace consommateur, c'est mon espace, c'est ton espace et c'est notre affaire à tous.
Bon à savoir.
Voici le geste que nous devrions tous faire avant de boire notre café du matin. Boire son café le matin est souvent la première chose que de nombreuses personnes font. Cela nous permet de se réveiller et commencer la journée. Cependant, il y a une bonne habitude à prendre avant de consommer son café. Découvrez donc cette habitude. Lorsqu'on se lève, le premier geste est souvent de préparer un bon café. Cela peut sembler une habitude inoffensive, mais elle n'est pas optimale pour votre santé. Sur le long terme, cela peut même vous causer de nombreux problèmes. En effet, le café est très acide. Sur un estomac vide, il peut faire des ravages, notamment la remontée d'acide, la mauvaise digestion, les palpitations cardiaques. Heureusement, un geste simple peut contrer cela. Voici donc la bonne façon de consommer son café. Au lieu de boire du café en premier, il est recommandé de commencer la journée par un verre d'eau. L'eau aide à neutraliser les acides gastriques et à préparer doucement le système digestif pour la journée et l'absorption du café. Il est aussi important de se réhydrater après une nuit de sommeil. Merci, c'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Espace Consommateur sur Radio de la Paix.
Espace Consommateur. Espace Consommateur, la tribune consacrée à la protection des intérêts des consommateurs. Espace Consommateur, c'est informer et sensibiliser les consommateurs sur les droits et devoirs, sur l'actualité des marchés, mais surtout sur les actions du gouvernement au profit des consommateurs. Espace consommateur, c'est mon espace, c'est ton espace et c'est notre affaire à tous. Réalisation, présentation, Jean-Claude Mabéa.